Au bout du jour sur la première, Eddie Kackelbergs.
Je vous propose à présent une plongée dans notre cerveau et ce que l'on en sait, en tout cas de ce que les sciences cognitives nous en disent et de ce en quoi elles peuvent nous aider, elles doivent même nous aider dans les pratiques scolaires. C'est en tout cas ce que nous propose notre invitée, Natacha Duroisin, qui est docteure en sciences psychologiques et de l'éducation et chargée de cours à temps plein à l'école de formation des enseignants. Bonsoir Natacha Duroisin.
Bonsoir.
Alors, je vous ai lu, il faut que l'on en appelle aux neurosciences pour innover dans les pratiques scolaires, c'est bien ça?
Oui et non. Alors, il faut effectivement se baser sur les neurosciences, mais pas uniquement sur les neurosciences, pour faire évoluer les pratiques scolaires. Il est très important aussi, plus encore que les neurosciences, que de convoquer plutôt les sciences cognitives, les psychologies cognitives et la psychologie du développement.
Alors, certains de mes confrères ont utilisé le mot de neuroéducation. Il est pertinent?
Alors, encore une fois, peut-être d'abord préciser ce qu'est la neuroéducation. Donc, il s'agit du rapprochement entre deux disciplines, à savoir les neurosciences et les sciences de l'éducation. Donc, les neurosciences qui concernent en fait l'étude du système nerveux, tant du point de vue de sa structure que de son fonctionnement, depuis les chaînes cellulaires, donc depuis le neurone, jusqu'au niveau des organes, à savoir notamment le cerveau. Cela veut dire que les recherches qui portent en neuroéducation ne porte en fin de compte que sur certains des aspects qui permettent d'appréhender la complexité de l'être humain. L'être humain, et notamment l'élève, ne se résume pas à un cerveau. Et ça, c'est très important. D'où l'importance de convoquer d'autres champs disciplinaires, à savoir la psychologie cognitive, qui, elle, permet en fait l'étude de mécanismes impliqués dans les apprentissages.
Alors, par exemple, vous nous suggérez que, après avoir lu un texte, se poser des questions à propos de ça aide en quelque sorte à stabiliser l'information en mémoire.
Oui, alors, lire un texte et surtout se poser des questions est très important. Pourquoi ? Parce que les recherches, notamment en sciences cognitives, en psychologie cognitive, ont permis de mettre en évidence que l'apprentissage se fait par automatisme. Automatisme, donc, par la pratique. Donc, on apprend en répétant les choses. Mais attention, toutes les répétitions ne se valent pas. Et c'est là qu'intervient justement votre exemple, enfin l'exemple que j'avais pris précédemment, donc à savoir que oui, c'est intéressant de lire une première fois, évidemment, l'information, mais la lire et la relire encore à plusieurs reprises est moins pertinent que de la lire une fois et puis de fermer le cahier, puis de prendre une page blanche ou en tout cas de se poser les questions et d'indiquer sur une page blanche ce que l'on a pu retenir du texte ou quand on se pose des questions, bien s'interroger soi-même sur ce que l'on vient de lire. Pourquoi ? Parce que ce qui est important, c'est d'effectuer des efforts. On apprend en effectuant des efforts et en mettant en place, en utilisant des stratégies d'apprentissage dites efficaces.
Natacha Duroisin, je m'arrête sur ce mot parce que, encore après avoir relu très attentivement, par exemple, le pacte pour un enseignement d'excellence, le mot effort n'y figure pas ou pas suffisamment. Il faut donc revaloriser l'effort parce qu'il est démontré qu'il est indispensable à une bonne cognition.
Oui, alors peut-être que dans le pacte, le mot effort n'apparaît pas, mais il apparaît à d'autres moments. Par exemple, dans le pacte et dans les prochains référentiels, l'accent est mis sur les contenus, sur les savoirs, davantage que sur les compétences, par exemple. Ce qui sous-entend que si on veut apprendre, il est important de connaître un certain nombre d'éléments, donc ces savoirs en tant que tels. Et on ne les apprend pas, comme je le disais tout à l'heure, autrement qu'en les répétant.
On est bien clair, et vous venez déjà de nous le rappeler par deux fois, ce que nous permettent les neurosciences, c'est de comprendre des modes de fonctionnement, non seulement de notre cerveau, mais aussi de notre façon de nous comporter, et donc, à partir de là, parce qu'on pourrait aussi parler des biais cognitifs, à partir de là, d'adapter nos méthodes pédagogiques pour appuyer sur les bons côtés et désamorcer les mauvais.
Oui. Effectivement. Les enseignants doivent tirer parti de ces recherches, alors pas uniquement celles en neurosciences, mais plus largement celles qui concernent la psychologie cognitive, la psychologie du développement. Et effectivement aussi tirer parti de certains enseignements des neurosciences, mais pas que, et ça c'est vraiment important. Donc par exemple, les enseignants évidemment ont des tâches, ont des exercices, ont des objectifs à faire acquérir aux élèves, et donc en fonction de ces objectifs, ils vont devoir opter pour une méthode ou pour une autre méthode pédagogique. On sait, alors peu importe les méthodes pédagogiques, mais il faut faire attention, on sait qu'il faut faire attention à différents points. Alors parmi ces différents points, l'attention en tant que telle, comme processus cognitif, est fort important et il faut absolument que l'enseignant attire l'attention des élèves sur les points de matière les plus décisifs. L'école et les programmes scolaires comportent bon nombre de contenus, de savoir, de savoir-faire, de compétences. Mais par contre, certains contenus sont dits décisifs et c'est important que l'enseignant mette le doigt et fasse mettre le doigt des élèves sur ces points de matière dits décisifs. Donc, il faut en fait absolument qu'il y ait moins d'illustrations, moins d'animations qui sont parfois très peu pertinentes pour se centrer sur l'essentiel.
Vous êtes, je le disais, aussi chargé de cours à temps plein à l'école de formation des enseignants. Et à ce titre, vous soulevez qu'il y a beaucoup dans les programmes de choses d'informations sur les contenus, sur les programmes eux-mêmes d'études à aborder lors des cours, mais très peu d'éléments, très peu de pistes, dites-vous, sur les méthodes, c'est-à-dire sur les stratégies qui fonctionnent.
Oui, et globalement, pas uniquement dans les programmes, mais plus largement, quand on aborde la formation des enseignants, il faut aussi, lors de cette formation, ne pas uniquement mettre l'accent sur des contenus. Oui, évidemment, les enseignants sont des spécialistes des contenus, mais ne sont pas uniquement des spécialistes de contenus. Ils doivent également être des spécialistes des méthodes d'apprentissage qui sont dites efficaces, qui fonctionnent. Alors, un exemple que je travaille beaucoup avec mes futurs enseignants, c'est que je leur demande, je leur dis qu'ils doivent énormément questionner les élèves. Ils doivent évaluer, évaluer et évaluer encore, et surtout de manière formative. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'évaluation qui va forcément compter pour des points, hein, pour le dire comme cela. L'important, c'est qu'il y ait une compréhension du fait que pour apprendre quelque chose, il faut qu'il y ait récupération des informations en mémoire. Et pour qu'il y ait récupération des informations en mémoire, il faut que les enseignants posent des questions aux élèves, à leurs élèves. Donc c'est important de faire cela, et pas uniquement à la fin du cours. Les enseignants doivent vraiment prendre conscience de la valeur éducative de l'évaluation en évaluant déjà dès les premières minutes de cours. Et donc, ce que je fais assez régulièrement dans mes classes, c'est que je commence par un rappel des cours précédents. Ben, quelque part, c'est une évaluation pour voir si les étudiants ont retenu quelque chose des cours précédents. Et ce qui est intéressant, quand on met en place ce genre d'évaluation, juste au début du cours, pendant le cours aussi, donc après 20 minutes, hop, on pose quelques petites questions sur les 20 premières minutes de cours, etc. etc. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les étudiants, eh bien, à un moment donné, ils vont se rendre compte que cet exercice, je leur demande systématiquement. Et donc, ils vont prendre le cours chez eux, 2-3 jours avant le cours, ils vont relire leur cours, et petit à petit, progressivement, les informations les plus importantes seront alors plus solidement ancrées en mémoire.
Alors, ce qui est intéressant, et bien entendu, il faut qu'on le souligne également, Natacha Duroisin, surtout à l'heure où l'on parle quand même beaucoup fake news, c'est que vous mettez en garde, vous dites, il y a les apports avérés que les neurosciences nous ramènent, mais il y a aussi ce que vous appelez les neuromythes.
Oui. Effectivement. Alors, effectivement, les recherches en neurosciences, en neuropsychologie, ont permis de mettre en évidence l'existence de neuromythes. Ce sont en fait des fausses croyances concernant le fonctionnement du cerveau. Alors, il existe plusieurs neuromythes. L'un d'entre eux, c'est la théorie des styles d'apprentissage. Cette théorie d'apprentissage soutient qu'adapter l'enseignement au style d'apprentissage des élèves, à savoir que certains sont plus visuels, plus auditifs, d'autres sont plus kinesthésiques. Donc ça veut dire que pour l'enseignant, une façon de différencier son enseignement, c'est de tenir compte des styles visuels, auditifs et kinesthésiques des élèves. Ça paraît simple, mais en fait, cette théorie n'a jamais été validée scientifiquement. Et au contraire, aujourd'hui, elle tente à être invalidée. Alors, bien sûr, des élèves peuvent avoir des préférences liées à un mode d'apprentissage particulier. Mais le fait d'enseigner en fonction de ces préférences ne favorise pas du tout un meilleur apprentissage. Ce qu'il faut, c'est absolument fournir de l'information selon un style visuel, auditif et kinesthésique aux élèves, sans forcément faire entrer certains élèves dans des cases bien spécifiques. Autre neuromythe qui existe et qui est très très présent dans la communauté enseignante, c'est l'existence de la théorie des intelligences multiples. Howard Gardner, dans les années 80, a donc élaboré cette théorie et donc a émis l'hypothèse qu'il existerait 8 formes d'intelligence différentes. Alors cette théorie très séduisante n'a jamais été validée par la science. Voilà, c'est assez problématique parce que certains enseignants vont en fait se dire tel élève, il a tel type d'intelligence, l'intelligence sociale, un autre a l'intelligence logico-mathématique, c'est comme ça, on n'y peut rien et donc autant faire travailler les élèves sur leur type d'intelligence préférentielle. Or non, encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est de permettre à une majorité d'élèves de toucher justement à ces différentes intelligences, mais je n'aime pas vraiment ce terme, c'est plutôt d'apprendre à l'élève toute une série de compétences dans de multiples domaines, sans encore une fois les faire entrer dans des boîtes importantes. Vous savez, la réussite scolaire est influencée par des facteurs génétiques à hauteur de 30 à 50%, à parts égales avec les facteurs familiaux et sociaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a ni déterminisme génétique, ni déterminisme social, mais une interaction complexe entre facteurs génétiques et environnementaux qui construisent ensemble l'individu. Donc c'est très très important de garder ça en tête et de se dire que, on ne démarre peut-être pas tous avec le même potentiel de départ, mais l'environnement auquel on va être confronté va être absolument décisif dans la manière dont un individu va pouvoir se développer cognitivement, intellectuellement parlant.
Oui, mais à propos d'apprendre, de ce que je retiens aussi de ce que vous venez de nous dire, manifestement, Natacha Duroisin, c'est qu'il y a encore du boulot pour, à l'heure où l'on parle de la réforme d'ailleurs, de la formation des maîtres, pour reformater en quelque sorte les cours qu'on leur donne, parce que ce que vous avancez là comme à la fois neuromythe d'une part et neuroavancée par ailleurs, ne font pas formellement partie ou pas à suffisance du programme de formation des enseignants.
Alors, sur cette question, ça dépend vraiment des formateurs, puisque en haute école, à l'université, nous essayons vraiment de proposer de multiples formations à l'heure actuelle qui remettent en question ces fausses croyances, justement. Alors, évidemment, il reste du travail, c'est un des défis qui nous attend et qui nous occupe déjà actuellement, d'ailleurs, puisque depuis un certain nombre d'années maintenant, nous mettons en place des journées d'études qui sont assez bien reçues, qui permettent à plusieurs centaines d'enseignants ou de futurs enseignants de venir assister à des conférences qui sont données par des experts, des spécialistes de la question, et s'en suivent souvent des séances de questions-réponses très très formatrices et très très intéressantes pour les futurs enseignants, comme pour les enseignants en fonction d'ailleurs.
Oui, en fait, les tests en situation réelle, vous plaidez pour. Vous dites qu'il n'y a rien de mieux pour eux que d'être confrontés en fait, dans leur formation à des situations réelles et de voir, de tester en quelque sorte ce qu'on leur a appris.
Oui, alors ça c'est une demande et vraiment un défi qui nous attend et on est déjà occupé à travailler sur ces dimensions, sur le fait que aujourd'hui, un chemin long reste à parcourir entre des données qu'on a pu obtenir en labo, que ce soit en labo, en psychologie cognitive, et puis des données que l'on obtient en classe, des données que l'on pourrait réinvestir en classe. Il faut savoir que les transferts entre les deux sont loin d'être automatiques. Donc, nous, pour l'instant, les recherches ont permis de valider un certain nombre de théories d'un point de vue scientifique sur la manière dont notre cerveau fonctionne, sur les mécanismes impliqués dans les apprentissages, mais reste maintenant à prendre toutes ces informations, toutes ces données scientifiques et à voir comment les transférer très pratiquement dans les classes avec les enseignants. Et là, vraiment, le partenariat chercheur et enseignant est fondamental. Donc on travaille aussi en ce moment avec les chercheurs à l'Université de Mons sur des recherches qui sont lancées dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence, des recherches qui portent sur la différenciation pédagogique, et on se nourrit justement de toutes ces avancées dans le domaine de la psychologie cognitive, dans le domaine de la psychologie du développement, pour travailler avec les enseignants à l'identification d'outils, mais aussi à l'adaptation d'outils en tenant compte de ces théories, pour in fine que les élèves puissent justement profiter des avancées de la science au niveau des apprentissages en mathématiques, en sciences, mais plus largement, et ce sont des questions qui nous occupent particulièrement à Mons, en ce qui concerne les apprentissages spatiaux, donc des apprentissages plus transversaux, l'apprentissage relatif à l'espace, mais qui sont fondamentaux quand on veut apprendre les mathématiques ou les sciences. Donc là, on a vraiment un travail à faire à ce niveau-là.
Merci de nous en avoir donné les pistes, Natacha Duroisin. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences psychologiques et de l'éducation, chercheuse à l'UMONS et chargée de cours à temps plein à l'école de formation des enseignants. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous, bonne soirée.
Nicolas Michaud, nos retrouvailles.
Dans la nuit noire, j'attends.
Et ce soir, bien entendu, vous allez retrouver dans un instant tout le monde enchanté, ce monde village que Didier Mellon nous offre chaque soir. Mais avant ça, Didier, nous allons ici, rien que pour nous, découvrir des voix étonnantes, amies, connues ou surprenantes, avec des voix ici encore pour nous et votre contribution, rien que pour nous, d'avant 20h, avec une nationalité de notre musicien de référence, Didier, que vous allez nous révéler.
Bonsoir, Eddy. Le musicien est turc, il s'appelle Ferhat Tunç, et son disque Kobani a été enregistré à Istanbul et à Oslo, en Norvège. Ferhat est humainement préoccupé par les gens vivant en Turquie et dans cette vaste région. Il aime aussi se rendre disponible et solidaire pour les Kurdes, pour les Alevis, pour les Arméniens. Il écrit au sujet de leurs histoires, leurs douleurs, leurs souffrances, mais aussi leurs espoirs et leurs richesses culturelles. Kobani est un disque précisant qu'il est important de défendre une liberté souvent maltraitée, d'être attentif aux traditions et à la culture précisément. Musicalement, nous sommes au croisement d'éléments turcs, kurdes, avec des ouvertures sur des paramètres plus pop ou rock occidentaux. Nous écoutons Ferhat Tunç en duo avec la chanteuse Sami Lapone, Marie Boine. C'est une touche symbolique car Marie Boine représente elle aussi une minorité culturelle dans les pays scandinaves et c'est une situation comparable aux Kurdes en Turquie. C'est un album personnel, universel, généreux et très humain.
사람 들어가 시대를 애매를 하니 사람 들어가 시 베즈나 도른데가 맨더티 제가 워시 너의 할야 마노 바보 할야 마노 맨소르다 외메로 사레메 데세노 너의 할야 마노 할레마세
Il est 20h. Nina Zanata avec vous. Bonsoir à toutes et à tous. L'Espagne fait appel à l'armée. Les chiffres de contamination au coronavirus sont en hausse. Les militaires viendront donc renforcer les équipes de traçage des malades potentiels. C'est la deuxième fois que le gouvernement a besoin de l'armée pour lutter contre la pandémie. Il avait déjà recouru à elle au mois de mars. 8000 militaires avaient construit des hôpitaux de fortune pour faire face à la crise sanitaire. La situation chez nous, elle est plus rassurante. Le nombre de contaminations diminue, la moyenne des hospitalisations quotidiennes est de 28, recule aussi du nombre de décès 7 par jour en moyenne. Plus de 4 entreprises sur 10 pourront encore recourir au chômage temporaire pour cause de coronavirus à partir du 1er septembre. C'est ce qui ressort d'une étude de la société de ressources humaines Acerta. Il y a une condition, ces entreprises doivent démontrer qu'elles ont perdu plus de 20% de leur heure de travail au deuxième trimestre et qu'elles ont compensé cette perte par du chômage temporaire. À quelques jours de la rentrée académique, les plateformes qui mettent en relation les propriétaires de cotes et les étudiants constatent une diminution de l'affluence sur leur site internet. Et le Cote, par exemple, fait état d'une baisse de fréquentation de 10 à 15% depuis le mois de juillet en termes de recherche de logement. Un groupe de 29 joueurs, avec de nouveau Roberto Martinez, a dévoilé sa sélection pour les deux prochains matchs de la Belgique en Ligue des Nations. Les nouveaux visages sont Anderlechtois, avec Landry Di Matta, 22 ans, et Jérémy Doku, 18 ans. Un joueur qui plaît beaucoup au sélectionneur national. Après 10 mois d'absence, les Diables se déplaceront au Danemark le 5 septembre et ils recevront l'Islande à Bruxelles le 8 septembre. C'est la fin de ces infos, merci de votre attention.
Matin Première,
Sophie Brems,
François Heureux.
Ce sont les voix qui donnent le ton.
Et Matin Première fait sa rentrée de 6h à 9h.
Et c'est là que ça se passe.
On distante oggi.
On rencontre plus de gens.
Le temps du débat va venir.
De l'info au réveil, de la bonne humeur aussi.
C'est un classique, hein. Tout le monde a déjà goûté la semence pour voir.
Absolument pas. Sur la...
Je suis en tout cas prêt à parier une bouteille de champagne.
When you can, use the mask.
Le monde avec le Covid, la crise politique, les élections américaines.
On vous informe et on en débat. Vous serez là, Sophie ?
Tout comme vous, François.
Matin Première.
De 6h à 9h.
Sur la Première.
Et 24h sur 24 sur RTBF Ovio.